Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Avant, les marins craignaient les océans pour ses humeurs. Aujourd'hui, ils les craignent pour les criminels qui les fréquentent. Eh bien, c'est le triste constat issu des travaux de mon invité. Julia Tass est directrice de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques à l'IRIS. Elle dirige le programme Climat-Énergie et sécurité. Elle est l'autrice d'un article sur le sujet paru dans la revue annuelle Déméter. Bonjour Julia Tass.
Bonjour.
Alors, les chiffres que vous donnez dans votre article, c'est 2000 morts par an dans la pêche et la navigation commerciale. Vous en concluez que c'est le métier le plus dangereux du monde.
Ce sont deux nombreux métiers qui se tiennent sur un milieu sur lequel l'homme n'est pas censé évoluer, La mer. Donc nécessairement, ce sont des métiers dangereux qui font face à tous les dangers de la navigation qu'on connaît bien.
Alors donc c'est vrai qu'avant, il y avait le danger du climat et il y a maintenant le danger de l'homme lui-même. Alors on connaissait la piraterie, évidemment, mais Cette menace a évolué.
Je pense que c'est surtout dans les perceptions. On a très longtemps considéré que le danger principal lorsqu'on était en mer, c'est la mer elle-même. Ça a été le cas pendant des siècles. Et peu à peu, grâce aux techniques de sécurité et de sûreté maritime, on a réussi à avoir un périmètre de sécurité important et donc à réduire les risques. Et aujourd'hui, ce sont des risques liés aux hommes, effectivement, qui sont en expansion. Et la pêche en particulier fait face à un regain d'exposition aux violences en mer et en particulier venant des hommes.
Ouais. Alors bon, il faut distinguer la pêche. Vous ne parlez pas dans cet article de la pêche illicite artisanale.
Non, effectivement.
Là, on est bien d'accord, on est sur la pêche industrielle.
On est sur la pêche industrielle et particulièrement, en fait, je traite dans cet article de la manière dont les pêcheurs artisanaux ou les pêcheurs traditionnels vont être exposés à une forme de violence, de contrainte de la part d'acteurs de la pêche illicite industrielle.
Alors ça se caractérise comment? C'est des gros bateaux qui arrivent et qui demandent aux petits bateaux de s'écarter, voire de ne pas prendre la mer?
Il demande rarement.
Ouais, il demande pas,
il demande rarement. Dans un premier temps, ça va être des contraintes réglementaires, ça va être des contraintes de lieux, etc., qui vont être respectées par les pêcheurs artisanaux traditionnels et qui ne vont pas être respectées par les pêcheurs de la pêche illicite. Donc ça, c'est une première forme, finalement, de différence dans l'accès aux ressources. Ensuite, il y a évidemment la taille du bateau, les capacités de pêche, les capacités de prise. Et puis, il va y avoir, et c'est ce que je développe un peu dans mon propos, le fait que de nombreux acteurs de l'économie de mafieuse, par exemple, vont s'intéresser au secteur de la pêche. Et avec l'arrivée de ces acteurs qui utilisent la violence pour arriver à leur fin, vont se développer en mer des risques auxquels les pêcheurs étaient relativement peu exposés jusqu'à présent, des risques de se faire effectivement...
Donc affrontement direct.
Affrontement direct ou menace. À terre, hein, pas en mer forcément, mais menace une forme de pression très forte sur leurs activités qui n'étaient pas présentes à un tel niveau jusqu'à présent.
Organisation mafieuse.
Oui, alors ça peut paraître assez surprenant, mais c'est intéressant pour une mafia de se lancer dans la pêche.
De blanchir dans la pêche,
exactement.
Vraiment ?
Alors on achète un bateau, on l'achète avec l'argent issu d'activités illégales. On va réussir, je dirais relativement facilement, à en changer le pavillon, à en changer le nom, à en changer le répertoire, l'enregistrement. Ouais. Donc on le fait totalement changer de lieu, d'espace, etc. On va s'appuyer sur la discontinuité, la difficulté des États à suivre quels sont les bateaux où ils vont, pour faire disparaître et réapparaître ce bateau à l'autre bout du monde. Et ensuite, ces organisations vont parfois faire appel au travail forcé pour armer le bateau, c'est-à-dire pour y mettre du personnel de pêche.
100 000 hommes.
Alors
c'est
voilà,
ça circule.
Exactement, c'est un chiffre.
Forcé.
C'est un chiffre qui circule. 100 000 marins seraient victimes de travail forcé chaque année. Mais l'Organisation internationale du travail précise que ce sont des chiffres à prendre avec beaucoup de précaution, puisque par essence, ce sont des chiffres que l'on essaye d'estimer sur la base d'une économie noire, d'une économie sombre.
On gagne de l'argent quand on est une organisation de type mafieuse à blanchir et à investir dans la pêche industrielle ?
on gagne de l'argent parce que donc on achète un bateau avec de l'argent obtenu illégalement, sale. On paye très peu, voire pas du tout, son équipage. Oui. On obtient également son carburant par des voies qui peuvent être mafieuses. Oui. Et puis, on va par contre arriver à revendre le poisson, à le réintégrer sur certains marchés, en profitant là aussi, je parlais tout à l'heure, de certaines failles dans le système de suivi de répertoire de certains bateaux de pêche. On va pouvoir aussi profiter de failles dans la capacité à suivre le poisson, le poisson pêché. Et donc là aussi, on va pouvoir le remettre sur un marché légal et profiter de la hausse de la consommation de poisson.
Complicité de certains États avec des pavillons de complaisance ou pas ?
Les pavillons de complaisance, alors là, c'est un énorme sujet. Je pense qu'on peut, on n'est pas obligé de se lancer dans cette question. Mais en fait, ça va, je ne dirais pas complicité, mais en tout cas, ils vont, ces organisations-là vont s'appuyer sur l'existence de ces pavillons de complaisance, sur la corruption également, et sur la difficulté à l'échelle internationale de suivre tout ce qui peut se passer en mer.
Alors, on reviendra sur les solutions. Ça frappe quelle région du monde, cette pêche industrielle illégale, voire menée par des mafieux ?
Un peu partout. Mais alors, en fait, vous avez la haute mer, où là, on surveille difficilement ce qui se passe. Donc, on peut facilement dire qu'il y a de la pêche illicite en haute mer. Et ensuite, dans les eaux qui sont sous la juridiction d'État, on va trouver de la pêche illégale, illicite, au large de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, au large des côtes pacifiques de l'Amérique latine, donc du côté du Chili, du Pérou. En fait, souvent, on va pouvoir suivre ces bateaux-là parce qu'ils vont aller là où il y a du poisson.
Et l'Asie ?
Tout simplement. Et en Asie également, donc en Asie du Sud-Est. Alors, il va y avoir des pays dont on sait des équipages vont partir de ces pays-là, donc des pays comme la Thaïlande, par exemple, qui aujourd'hui luttent contre la pêche illicite, ont très longtemps été des ports d'attache de bateaux qui avaient du travail forcé à bord, par exemple. Mais après, ils peuvent partir très loin.
Ces organisations criminelles, issues de quel pays ?
Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous répondre précisément. Ce qu'on sait, c'est que ce sont des manières de faire qui sont issus d'organisations criminelles, mais il est très difficile, comme tout passe par des sociétés écrans registres, c'est très difficile de remonter.
On est touché, nous, en Europe, sur nos côtes ou pas ?
Sur les côtes européennes, c'est moins le cas, parce que nous avons des capacités de surveillance et de sanctions.
Alors justement, les réponses internationales, d'abord, à ces phénomènes, est-ce qu'elles sont à la hauteur de l'accroissement, justement, de ce problème ?
Les réponses internationales tentent d'être à la hauteur. Ce n'est pas facile du tout.
Qui peut répondre d'abord ?
Alors, il y a différentes organisations. Il y a les organisations régionales de gestion des pêches, qui sont, comme leur nom l'indique, des organisations qui ont pour objectif de suivre ce qui est pêché, où et quand. Donc, ces organisations-là, elles vont pouvoir tenter de réguler les activités en mer. Mais en fait, ce ne sont pas ces organisations qui vont avoir des capacités de respect d'application du droit. Donc, par exemple, les gardes-côtes ou les marines, ce sont des acteurs nationaux. Donc déjà, là, vous voyez qu'il y a des organisations qui régulent, des organisations qui font appliquer le droit. C'est déjà une première difficulté. Ensuite, en termes de moyens de surveillance, ça coûte très cher d'avoir les moyens pour surveiller des espaces immenses. Et il va falloir que, donc, pour découper les étapes, pour vous montrer à quel point ça peut être complexe, il faut que vous puissiez trouver le bateau qui est en train de pêcher de manière illégale. Ensuite, il faut que vous puissiez envoyer un navire avec suffisamment de personnes à bord, armées, etc., etc., avec des observateurs pour intercepter ce navire. Il faut que vous puissiez prouver qu'il est en flagrant délit. Donc, en fait, il faut que vous puissiez soit prouver qu'il y a du travail forcé à bord, soit qu'il y a des poissons qui ne correspondent pas aux quotas ou aux espèces qui sont autorisées pour la pêche, soit des méthodes de pêche qui sont illégales.
Donc, une armada répressive qui n'est pas au niveau. Mais d'un point de vue juridique international, est-ce que c'est suffisant ou pas, la réglementation internationale ?
La réglementation internationale, aujourd'hui, ne peut pas faire face à cette expansion de ces activités illégales. La FAO, donc l'Organisation alimentaire mondiale
des Nations Unies,
a mis en place un système qui en fait s'appuie sur les ports dans lesquelles les poissons sont déchargés pour essayer de suivre et d'intercepter la pêche illégale.
D'accord.
Donc, c'est un accord international qui s'appelle l'accord des États du port et donc qui vise à ce que les États dotent leurs ports de pêche en particulier de capacités de remonter ou d'identifier des cargaisons qui seraient issues de la pêche illicite. Mmh. Et c'est en fait, c'est là où les choses peuvent se jouer parce qu'en mer, c'est trop compliqué. Mmh. Mais ce poisson-là, il va revenir à terre à un moment donné. On ne le consomme pas en mer, on le consomme à terre. Donc effectivement, tout repose pour l'instant, ou en tout cas tous les espoirs sont mis sur ses capacités à intercepter le moment où il arrive sur Terre.
Dernière question, les États ont renforcé leur législation aussi ?
Oui, des États renforcent. Donc il va y avoir des États qui ont déjà des législations fortes, d'autres qui renforcent leur législation, en particulier sur le travail forcé, par exemple, ou sur la capacité à pouvoir faire disparaître un bateau d'un endroit à l'autre. Mais peu à peu, ça va se faire. Je dirais que la principale difficulté, c'est que ça se fait à des vitesses très différentes
autour du monde. Merci beaucoup, Julia Tass, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.